pour le prochain, donc aujourd'hui et le prochain deux semaines, je vais parler de Dieu et en focalisant sur l'idée de la Trinité. Donc aujourd'hui, on va parler de Dieu le Père et donc les prochaines deux fois, on parlera de Dieu le Saint-Esprit et de Dieu le Fils de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est le Père, mais on va parler globalement de Dieu et puis on va focaliser sur quelques points concernant le Père. À comprendre déjà que dans le monde aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui voit Dieu uniquement comme une force et non pas comme une personne, une force qui n'est même pas morale ou immorale, une force amorale. Et c'est vrai que quand on lit la première phrase de la Bible, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », il n'y a pas beaucoup d'informations à propos de Dieu. On dit seulement que Dieu existe et qu'il a fait des œuvres dans cette première petite phrase. Okay? Donc, logiquement, nous pouvons dire que Dieu a une volonté puisqu'il a fait les cieux et la terre. Donc, il aurait pu ne pas le faire, mais il l'a fait. Donc, Dieu a une volonté et donc, on pourrait dire logiquement qu'il doit être intelligent et créatif pour faire les cieux et la terre. Et il va de soi qu'il doit être extrêmement fort et immense. On pourrait même supposer, à partir de cette petite phrase, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », on pourrait même supposer que Dieu se trouve quelque part et que ce quelque part doit être en dehors de ce qu'il a créé. Parce que s'il a créé, ça veut dire que ça n'existait pas avant. Dieu était déjà là, parce que Dieu était toujours là. Mais notre existence n'était pas encore là. Donc Dieu est en dehors de notre existence, de ce qu'il a créé. Puis quand on lit dans Genèse 1 et 2, nous allons observer la grande sagesse et capacité du Dieu créateur. Et dans le chapitre 3, nous voyons que la création à son origine, donc avant le péché, que à son origine, la création était extrêmement bien faite. Donc dans le hébreu, il dit bon, bon. Tout était bon, bon, bon à l'extrême. Donc Dieu ne se trompe pas. Il n'avait pas besoin de X milliards d'années pour corriger toutes ses erreurs à travers un genre d'évolution, etc., n'est-ce pas? Donc, on peut dire que Dieu est parfait, il connaît tout, il est partout, il est tout puissant, puisque c'est lui qui a tout fait, il est le propriétaire de toutes choses. Comme Paul a dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Tout est à Dieu. On a vu ça dans un psaume l'autre jour aussi, n'est-ce pas? Puis dans Genèse chapitre 2, 3 et 4, nous apprenons que ce Dieu créateur est moral. Il est le bien. Donc Adam et Ève ont désobéi à Dieu pour connaître non seulement le bien, mais aussi connaître le mal. Et Dieu ne voulait pas qu'ils connaissent le mal. Et ils étaient déjà dans le bien. Mais ils l'ont transgressé. Donc c'est pour cela que nous disons que Dieu est saint. Dieu est le bien. Il est saint. Il est absolument séparé de tout péché. Il n'y a point de péché en Dieu. Donc nous constatons en premier le fait de l'existence du Dieu créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu était seul et les cieux et la terre dépendent de lui. Dans Hébreux 11:6, nous lisons « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, croire que Dieu existe ne sauve personne. Il faut avoir confiance en lui. Ça, c'est une autre chose. Et même les démons savent que Dieu existe, mais ils ont de la haine pour Dieu. Dans Apocalypse 1:8, nous lisons « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Dieu existe. Et quand il a dit à Moïse son nom, il a dit « Je suis celui qui est. » J'existe. Nous, on commence à exister. Et on va mourir. Mais Dieu, il est toujours là. Il était toujours là. Il sera toujours là. Attention, Dieu ne nous a pas laissés sans témoignage. Il y a au moins 4 témoignages que Dieu a laissés. Premièrement, la pensée de l'éternité est dans le cœur de chaque personne. C'est un témoignage intérieur. Même l'athée ne peut pas échapper de ce témoignage que Dieu a mis à son cœur, qu'il y a de l'éternité. Et quand on va mourir, on va entrer dans cette éternité. Okay? Dans Ecclésiaste 3:11, nous lisons que Dieu a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Et puis Dieu a laissé son empreinte dans l'ordre et l'immensité dans la nature. La nature est un second témoignage de l'existence de Dieu. Bien qu'on prétende que tout est là par hasard, il n'y a rien de hasard de ce que nous voyons. Tout est bien organisé, bien ordonné. Tout se passe comme un grand horloge. Aussi, Dieu a communiqué par sa révélation spécifique dans les Écritures. Donc, nous avons les Écritures qui donnent témoignage, pas simplement que Dieu existe, mais de qui est Dieu. Sa personnalité, sa volonté, ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas, etc. Alors, pas besoin d'attendre et de dépenser comme on fait des milliards d'euros et de dollars pour trouver un message d'un extraterrestre. Parce qu'on l'a déjà, ici. Puisque Dieu est en dehors de notre existence. Donc, il est extraterrestre. Pas dans le sens qu'on veut le dire. Mais puisque Dieu a déjà parlé, est-ce que les gens vont écouter? Non, ils ne vont pas écouter, mais ils veulent trouver un autre Dieu, un autre extraterrestre qui va dire quelque chose. Wouhou, que j'existe. Et ils vont croire tout de suite. Mais non, Dieu a déjà dit quelque chose et les gens pourraient croire, si vous voulez. Et non seulement. Mais le quatrième témoignage, c'est que Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est toute l'histoire de Noël, comment Dieu s'est fait homme. Un des astronautes avait dit « Ce qui est le plus étonnant, je ne sais pas exactement la citation, ce qui est le plus étonnant n'est pas que l'homme ait marché sur la lune, mais que Dieu a marché sur la terre. » Parlant de Jésus. Donc, il y a ces 4 façons que Dieu, il laisse un témoignage et les gens doivent répondre. Alors, la révélation que le Seigneur Jésus-Christ a fait concernant Dieu, c'est que Dieu a élargi notre compréhension de Dieu. Il a parlé de sa Trinité. Il a parlé de la complexité dans l'unité. Dieu est un et Dieu est complexe. Dieu n'est pas un être simple. Il est un être, comme j'ai dit, complexe. Dans la Genèse, je crois que c'est le 2e chapitre, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image. » Il n'y a pas grande explication, mais quand même, ça laisse entendre que Dieu est plus que « Je vais faire l'homme à mon image. » Non, il dit « Faisons l'homme à notre image. » Il est complexe. Unité, égalité, amour, soumission à l'autorité. Ça, c'est ce qui est Dieu en lui-même. Jean 1:1 dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. » Donc, la parole était, donc la parole, donc le Fils, était avec Dieu, le Père. Et la parole, le Fils, était Dieu. Donc, le Fils est Dieu. Elle, la parole, le Fils, était au commencement avec Dieu. Quand on dit avec, ça distingue entre les deux. Donc, il était avec le Père et il était là. Il est Dieu. Au commencement, quand le commencement a commencé, était déjà la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Et c'est pour cela que nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On baptise au nom unique, pas au nom pluriel, mais au nom unique de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc je répète que Dieu est un. Et Dieu est complexe. Alors, on a cette question du nom de Dieu. Alors, le nom représente la personne. Jésus a dit, j'ai fait connaître ton nom. Dans Jean 17, verset 6. Premièrement, je vais dire que ce nom n'a rien à voir avec les prétentions des témoins de Jéhovah. Car à l'époque, tous les Juifs connaissaient le nom de Dieu. Et d'ailleurs, son nom n'était jamais Jéhovah. Parce que le mot Jéhovah est un mot composé de deux mots, donc Yahvé, les quatre consonnes de Yahvé, et les voyelles de Adonai, qui veut dire Seigneur. Et ça a créé un mot, donc c'est Jérôme dans le 4e siècle qui a créé un mot qui dit Jéhovah. Ce mot n'a jamais existé avant le 4e siècle après Jésus-Christ. Okay? Donc c'est un argument que les témoins de Jéhovah présentent. Mais c'est une tromperie absolue. Ce nom n'a jamais existé. OK? Donc Dieu ne s'appelle pas Jéhovah. Il s'appelle Yahvé, si vous voulez être hébraïste. Par contre, il a dit le nom. J'ai fait connaître ton nom. Et c'est quoi le nom? Qu'est-ce que c'est la personne que Jésus a révélée? Il a révélé la relation paternelle que nous avons avec Dieu par l'Évangile. Dans Jérémie 3, 19, il y a la prophétie que un jour, pas tout de suite là, mais un jour, les Juifs allaient appeler Dieu mon Père. Le jour devait venir dans lequel Dieu ne sera plus éloigné à cause de nos péchés, à cause des péchés d'Israël, etc., mais que Dieu allait devenir le Père. Et c'était à travers le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand on dit Père, quand on dit Père, on parle de l'autorité. On parle de la responsabilité, on parle de la provision, on parle de la protection. C'est ça, un Père. Dans Actes 1, 7, je vais chercher ça, Actes 1, verset 7, nous lisons, Jésus répond, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » En haut de toutes les hiérarchies, en haut, c'est Dieu le Père. Il est l'autorité. Toute déviation de sa volonté est péché. Donc, Adam et Ève ont fait quoi? Ils se sont rebellés contre la volonté de Dieu. Ce n'était pas le fruit en soi. On ne sait même pas quel fruit. Dieu n'a pas trouvé important de dire le nom de ce fruit-là. Le point, c'est qu'il ne fallait pas manger ce fruit-là. Ça, c'était sa volonté. Et Adam et Ève ont fait le contraire. Et donc, ça, c'était le péché. Dieu n'est pas un génie ou un porte-bonheur. Il est l'autorité suprême, dont tout être doit hommage et obéissance. Vous vous trompez si vous croyez que vous rendez un service à Dieu en lui obéissant, car vous lui devez votre obéissance. Tout ce qui est dans l'univers doit à Dieu obéissance. Oui, vous devez servir Dieu. Tout être doit servir Dieu. Mais à cause du péché, il est impossible d'obéir à Dieu de la manière que Dieu veut. Et même nos actes, des œuvres diverses, sont souillés devant Dieu. Donc malheureusement pour nous, depuis Adam, à cause du péché, chacun est exclu de la présence de Dieu, condamné à des peines éternelles. Et nous pouvons lire ça dans Apocalypse 20, verset 11. « Puis je vis un grand tremblant, et celui qui était assis dessous, donc en parlant de Dieu, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Et puis ça entre dans la question des résurrections et des condamnations éternelles. Donc Dieu, il est l'autorité dont nous devons être soumis. Quand on parle de l'autorité du Seigneur Jésus, on apprend dans les évangiles que tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a dit, était sous l'autorité de son Père. Quand on parle de nos familles, dans nos vies, donc application de ces choses-là, le Père devrait être l'autorité dans la famille, dans le foyer. Comme la relation entre les membres de la divinité, donc la Trinité, il doit y avoir, dans le foyer, l'unité, l'égalité, l'amour et la soumission à l'autorité. Donc la femme prend sa place comme le Seigneur Jésus. Hein? Donc le Père est là, donc qui est en dessous, c'est le Seigneur Jésus. Hein? Donc la femme, elle prend sa place comme le Seigneur Jésus par soumission à l'autorité. Donc quand on parle là, on ne parle pas de sa silence. Donc Jésus parlait bien à son Père, comme une femme va parler à son mari. Et Jésus a même dit, enlève de moi cette coupe si c'est possible, mais pas ma volonté, mais la tienne. Okay? Et puis ce n'est pas le péché non plus. Il y a tant de maris qui disent à leur femme de commettre tel ou tel péché. Mais non, ça ne devrait pas exister. Dans l'idéal, donc je parle dans l'idéal, l'homme devrait être l'autorité, il doit prendre la responsabilité, il doit pourvoir pour tous les besoins et protéger sa famille. Ça, c'est dans l'idéal. Hein, mais dans le monde réel, eh bien, c'est pas très souvent le cas. Et ça, c'est à cause du péché. Mais il y a la grâce du Seigneur Jésus par l'Évangile. N'est-ce pas? Grâce à Jésus-Christ, les croyants sont aimés de Dieu. Si vous n'acceptez pas l'unique offre de sauvetage, c'est-à-dire du salut, pour obtenir la paix avec Dieu, vous serez perdus. Il y a une seule moyen de sauvetage. Il y a un seul salut. Et c'est ça que Dieu a prévu, que Jésus vienne, qu'il meure sur la croix pour nos péchés et qu'il ressuscite et le message de salut soit annoncé en son nom. Donc c'est pour cela que nous voyons que Dieu nous a aimés et que Dieu nous aime. Aussi, grâce à Jésus-Christ, les croyants sont devenus enfants de Dieu. Ça, c'est déjà dans Jean chapitre 1, verset 12. Pour devenir enfant de Dieu, il faut croire au Seigneur Jésus. Et ainsi, Dieu devient notre Père adoptif. Nous lui prions. Notre Père qui est aux cieux. N'est-ce pas? Jésus a pris comment prier. Notre Père. Et puis, Paul va dire plus tard, quand on prie par le Saint-Esprit, on va prier Abba, Père. Abba, c'est hébreu ou arménien pour papa, ok, arménien. Dans 1 Jean 3, 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il parle de l'Évangile et il dit, et nous le sommes. Ça veut dire aujourd'hui, déjà, nous sommes enfants de Dieu. Puis grâce à Jésus-Christ, les croyants sont aimés de Dieu, aimés par Dieu. Donc Jude dit, dans le premier verset, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, donc ceux qui sont croyants en Jésus-Christ, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Alors je pose la question, gardés pour quoi? Gardés pour l'avenir que Dieu prépare pour nous. Donc je vais lire Apocalypse 21:10 et 21:22. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendit du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Et 21:22. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, c'est-à-dire le Père, ainsi que l'agneau, le Fils. La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer. Donc, il parle du paradis céleste, le Nouvel Jérusalem. Car la gloire de Dieu, le Père, l'éclaire, et l'agneau, le Fils, et son flambeau. Okay, donc, on parle de notre futur, donc dans la maison de mon Père. Il y a des descriptions qui comprennent à la fois le Père et le Fils. On n'a pas parlé trop du Saint-Esprit encore, hein? En attendant l'accomplissement de notre espérance céleste, Jésus nous a assuré la présence intérieure du Consolateur. Donc, depuis qu'il est remonté au ciel, il a demandé au Père, on verra ça une autre fois, et il a fait envoyer le Saint-Esprit. Donc, c'est cet Consolateur, troisième personne de la Trinité, c'est lui qui nous rend capables d'agir par amour envers Dieu, et de lui plaire. C'est lui qui est la source de notre vie chrétienne. Et on n'a rien à craindre. Donc je vais lire encore quelques versets pour terminer. 1 Jean 2:1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, donc auprès de l'autorité que nous avons offensée. C'est qui? Jésus-Christ. Le juste, Jésus-Christ, Christ qui n'a jamais péché. Jésus-Christ, le Saint. Romains 8, 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, donc le Père qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Nous n'avons rien à craindre. Parce que Dieu déjà a exprimé l'amour ultime en sacrifiant son Fils afin de nous racheter de nos péchés. Et puis 1 Jean chapitre 1 verset 3, juste la moitié, notre communion, grâce à Jésus bien sûr, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc on ne peut pas atteindre le Père sans passer par le Fils, mais le Père est là. Il est l'autorité. Et donc, quand on pêche contre Dieu, la Trinité, mais en particulier contre l'autorité. Et c'est par l'Évangile que Jésus, le Fils, faisant partie de la Trinité, eh bien, il a apaisé la colère de l'autorité, son Père, en versant son sang sur la croix. Amen.